Vous écoutez Quoi de Meuf ? Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture toutes les trois semaines. Je suis Mélanie Wanga.
Je suis Clémentine Gallo. On est toutes les deux journalistes.
Cette émission, c'est une conversation à deux dans laquelle on discute aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna.
C'est parti !
Salut Clémentine !
Salut Mélanie !
Cette semaine, on a décidé de se plonger dans le monde merveilleux de la littérature jeunesse, qui a connu de vraies évolutions ces dernières années, notamment en termes de représentation, avec l'émergence de nouveaux auteurs et autrices aux voix différentes. Et aussi, on va vous parler des livres qu'on lisait quand on était gamine.
Bonne année, meilleurs vœux, et surtout ne prenez pas de bonnes résolutions qui ne seront que de nouvelles injonctions.
Bonne année.
Merci. Donc voilà, on est en 2018, ça y est, ouf, avec plein de beaux projets, de super films et de nouvelles séries à regarder. Et personnellement, j'ai un peu fait le tri parmi les sorties à venir de l'année. Et je n'ai pas du tout hâte de voir le premier film de Bradley Cooper.
Comment ça?
Qui s'appelle A Star is Born.
Avec
Lady Gaga. Et sa sortie, comme par hasard, est prévue pour le mois de mai, c'est-à-dire pour le Festival de Cannes. Donc on peut craindre
l'enfer.
Le pire. Et sinon, pour 2018, j'aimerais bien que Johnny Depp disparaisse de nos écrans. Malheureusement, il va jouer dans la suite de Gnoméo et Juliette, qui s'appelle Sherlock Gnomes, sorti en avril. Voilà, donc l'année commence très mal.
Ça y est, tu m'as déprimée là. Bah non, mais c'est bien quand même 2018 qui est là. C'est enfin presque la fin de la décennie.
Ouh,
je sais pas ce qu'on va retenir de cette décennie, mais c'était assez mouvementé quand même. Hein. Mais je suis prête à ce que ça se finisse et je suis aussi prête. Alors voilà. Pour un nouvel album de Beyoncé.
Ouais.
Oui, mais je pense que ce sera plutôt en 2019, mais l'espoir fait vivre. Et il y a aussi un autre film qui va sortir qui s'appelle Crazy Rich Asians, en août normalement, qui est adapté d'un livre sur la, on va dire, l'aristocratie asiatique qui se passe entre Singapour, Hong Kong. C'est génial, c'est hyper drôle et j'ai tellement hâte que ça sorte. Je l'ai lu dans l'avion justement en allant en Asie et c'est à mourir de rire. Et voilà, et sinon, ouais, 2018... On se rapproche de la quarantaine tout doucement, quoi.
Oui, ça va quand même.
On n'a pas peur, c'est bon.
La pente est face à nous.
Voilà.
Alors nous, on a toujours aimé lire. D'ailleurs, c'est un peu notre cœur de métier encore aujourd'hui. Et la littérature jeunesse nous intéresse particulièrement, surtout qu'il y a eu le salon de la littérature jeunesse de Montreuil au mois de novembre. Donc... On va parler de la littérature jeunesse qu'on connaît d'abord, c'est-à-dire celle des années 80 à nos jours, puisque nous sommes des enfants des années 80.
Voilà. Avant, on n'était pas nés.
Voilà, c'est ça. Et d'abord, on aimerait parler de personnages et d'auteurs et d'autrices qui nous ont inspirés. On vous a posé la question à vous, auditeurs et auditrices, sur les réseaux sociaux. Et vous nous avez rappelé avec émotion vos souvenirs de Fifi Brin d'Acier, d'Astrid Lindgren. Surtout les Scandinaves, d'ailleurs, qui trouvent que c'est la première punk. Vous nous avez aussi parlé des bêtises d'Héloïse au Plaza, de Kate Thompson, de l'intrépide Alice, publiée à la Bibliothèque Verte, et du Club des Babysitters de Anne M. Martin.
Ouais, c'était bien ça. Mais alors, vous nous avez aussi parlé sur Twitter des petites filles modèles de la comtesse de Ségur, des quatre filles du docteur March, Louisa May Alcott,
Joe,
très formateur, la BD Marion Duval de Yvan Pomeau.
Ça, je ne connais pas.
Moi non plus, mais apparemment, il y a quand même de nombreux fans. Ouais. De l'Antigone de Jean Anouilh, les héroïnes de Pierre Bottero, de Mafalda, et bien sûr d'Harry Potter. Mais nous, en fait, on est trop vieilles. Enfin, moi, personnellement, j'étais à la fac quand Harry Potter est sorti.
Ouais, moi aussi. Et enfin, surtout Hermione, du coup, j'imagine.
Ouais, je pense que le rôle modèle, c'était Hermione. I mean, sort of
exciting, isn't it? Breaking the rules. Et on a aussi posé la question à des enfants pour savoir ce qu'ils et elles lisent aujourd'hui. Donc on écoute Rose, qui a 10 ans.
Bonjour, je m'appelle Rose. Mes livres préférés sont Moustique la grogne, le jour du cache-œil, Mamie gangster, de David Walliams, dont je lis le dernier livre en ce moment, Le gang de minuit. J'aime beaucoup les livres où il y a de l'humour et de l'amour, c'est pourquoi j'aime beaucoup les Théa Sisters. Et j'aime aussi les livres où les filles veulent faire les mêmes choses que les garçons, comme Béatrice l'Intrépide, où l'héroïne est Béatrice, c'est une super héroïne. Rose Bonbon, ou la petite éléphante Rose Bonbon, on l'appelle, se rebelle et veut faire les mêmes choses que les éléphants garçons. Et Hilary, une piratesse qui justement aimerait devenir capitaine, mais normalement ne peut pas, mais va enfreindre les règles et y arriver. Et aussi Marie Desplechin, dont j'ai beaucoup aimé verte, pomme et mauve.
C'était trop mignon. Donc pour récapituler, Rose recommande donc Béatrice l'Intrépide, qui est écrite par Mathieu Sylvander, et Rose Bonbon, qui est un classique féministe d'Adéla Turin, publié dans les années 70. Voilà, pour ceux qui...
Rose a très bon goût.
Ceux qui ne connaissent pas, voilà, moi je ne connaissais pas cette histoire d'éléphante qui veut faire comme les éléphants. Voilà. Et toi, sinon, Mélanie, qu'est-ce que tu lisais quand tu étais petite ?
Alors, moi, quand j'étais petite, j'ai une petite anecdote. J'ai appris à lire quand j'avais 3 ans, parce que mon père, il me mettait sur ses genoux, il me faisait lire le Livre de la Jungle, et il me disait : « Je veux que quand tu arrives à l'école, tu saches lire. »
Il te faisait lire le Figaro.
Donc, j'ai appris à lire quand j'avais 3 ans. Et du coup, j'ai tout de suite adoré ça. Et j'étais très fan des livres de l'école des loisirs. Mm. Mais c'est vrai que je m'en rendais pas compte. Mais à mon époque, tous les héros des livres que je lisais, c'était soit des animaux, soit des petits enfants blancs, en fait. Mmh. Et je pense que ça a joué du fait que jusqu'à 6 ans, comme ma maman était blanche, en plus, je ne réalisais pas que j'étais noire, que j'étais pas blanche. Parce que tout ce que je lisais, c'était des personnages blancs. Et, enfin, voilà. Et c'est vrai que quand ça abordait le sujet de la race, c'était toujours sous l'angle... On s'aime malgré les couleurs, c'est pas grave si t'es noire, il n'y a pas de problème.
Ce n'est pas une maladie.
Voilà, c'était un peu
malaisant. On te supporte.
Et en fait, j'ai retrouvé un bouquin que j'avais lu au moins 10 fois quand j'étais gamine, qui s'appelle « Gaufrette, petit beurre et chocolat » de François Chauser. Et en fait, c'était 3 petites filles, donc Gaufrette, petit beurre et chocolat, donc la blanche,
déjà,
l'arabe,
ça commence bien.
Voilà, et la noire, mais elles étaient copines malgré leurs différences. Et sur la couverture, t'as la noire, donc chocolat, qui fait une blackface à Gaufrette et qui la déguise en africaine. Au secours, quoi. J'ai retrouvé ça sur Internet hier. Je me suis dit, c'est pas possible.
Et on sait si la couve existe toujours en l'état ou...
Eh ben, alors après, j'ai fait quelques recherches et visiblement, l'auteur, il a fait que 2-3 livres. Mais oui, le
suite
bouquin...
Suite à cet échec, il a périclité.
Mais le bouquin existe toujours. D'accord. Et aussi beaucoup les Monsieur Madame que j'aimais beaucoup. Et je sais pas si tu sais, mais en fait, en ce moment, on reproche beaucoup aux Monsieur Madame d'être trop genrés avec Madame Coquette et Monsieur Costaud.
Ouais.
Voilà.
Ça m'étonne pas.
Madame range tout. Reviens de vacances.
Et toi ?
On peut d'ailleurs retrouver tous ces grands classiques racistes et sexistes dans les brocantes de France et de Navarre. Mmh. Moi, j'ai eu la chance de naître donc avant Internet, dans les 80s. Et en plus, j'étais enfant unique, ce qui veut dire que je m'embêtais beaucoup. Et donc, j'ai beaucoup lu. J'ai jamais été trop fan de Martine, Martine à la plage et Martine,
elle était neuneu, Martine.
Dans ses nombreuses activités. Ouais, ça me parlait pas trop. Et je préférais vraiment les anti-héroïnes qui faisaient beaucoup de bêtises et qui étaient un peu plus transgressives. Donc les malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur.
Ma poupée va manger des poissons bien salés.
Mademoiselle Sophie !
Dites-moi que vous n'avez pas touché aux poissons.
Fantomette, qui menait ses enquêtes. Mathilda de Roald Dahl, parce qu'elle est autodidacte envers et contre tout, voilà, contre sa famille. Et c'est vrai qu'à posteriori, j'ai trouvé que ça formait quand même le caractère d'avoir des modèles identificatoires aussi chouettes. Et je lisais aussi pas mal de polars écrits par des autrices, puisqu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont écrit des romans policiers. Donc Agatha Christie, Mary Gaines Clark, Anne Perry, qui a elle-même été mêlée à un meurtre dans sa jeunesse. Donc c'est assez croustillant.
Autobiographique.
C'est ça. Et une autre autrice américaine qui s'appelle Lillian Jackson Brown, et qui écrivait sur un journaliste moustachu et alcoolique qui enquêtait avec ses chats. Donc je pense que c'est à la base de ma...
de ta vocation.
De ma vocation de journaliste et de femme à chat. Voilà. Et toi, alors après, à la préadolescence, qu'est-ce qui t'a intéressé ?
Alors, moi, quand j'étais préado, je cherchais surtout à lire des aventures. Et j'aimais beaucoup les livres, tout ce qui était les livres que j'ai lus, effectivement, avec des petites filles qui menaient des enquêtes. Tom Tom et Nana, qui, je l'ai appris récemment, étaient écrits par des femmes, Jacqueline Cohen et Evelyne Reberg. J'aimais beaucoup aussi les romans de Suzy Morgenstern.
Oui, la première fois que j'ai eu 16 ans.
Oui, et tu sais qu'elle a encore aujourd'hui beaucoup de succès.
Ah oui,
les gamins au collège, ils l'adorent. Donc c'est voilà. Agnès Desartes aussi, j'aimais beaucoup. Mm. mais surtout, surtout la collection Cœur Grenadine. Alors, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais c'était une collection un peu sœur de la collection Chair de Poule, qu'on trouvait dans tous les bons centres commerciaux de France.
Dans toutes les bonnes gares.
Et c'était génial parce qu'en fait, c'était que des histoires d'ados, quoi, qui se passaient toujours à l'école, avec les parents. Et moi, j'étais très fan et j'ai retrouvé donc, un livre de Cœur Grenadine qui s'appelle Mon double et moi, de Janet Quinn Arkin, et qui raconte l'histoire de Stéphanie qui se fait passer pour sa sœur jumelle parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas assez populaire au lycée. Non, c'est complètement...
Et,
non,
mais un c'est... très bon plan non, pour se faire des amis.
C'est génial et ça a très bien vieilli. Et du coup, ouais, pendant les vacances de Noël, elle revient, elle se refait un relooking punk rock et elle se fait passer pour sa sœur jumelle et devient super populaire au lycée.
Donc moi, au même âge, j'adorais Judy Blume, qui a écrit, par exemple, « Dieu, tu es là, c'est moi, Margaret », ainsi que beaucoup, beaucoup d'autres romans.
Toujours.
Ouais, toujours, trois amis. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est attaqué à beaucoup de sujets tabous à partir des années 70 et qui a été vraiment pionnière du roman pour ados où, sur le divorce, le racisme, le sexe, la masturbation. Donc c'était à la fois très pédagogique et assez émoustillant. Et aujourd'hui encore, voilà, j'en relis fréquemment.
Dans ton lit,
l'été,
le soir.
C'est ça.
Ouais. Bah, juste pour terminer sur ça, moi aussi j'aimais beaucoup Agatha Christie. En fait, j'ai lu, je pense, toute Agatha Christie au collège, à tel point qu'à la fin, tout se mélangeait, ABC contre Poirot. Enfin. Mais ouais, ça me touchait vachement. Et j'ai aimé aussi beaucoup les journaux intimes de filles, quoi. Donc le journal d'Anne Frank, les cornichons au chocolat.
Oui, ça c'était trop bien, elle avait son chat et tout, elle avait ses règles.
Oui, et elle croyait qu'elle avait ses règles, parce qu'avant d'avoir ses règles, elle pensait que les règles, c'était que tu avais des règles qui t'étaient sorties du vagin, et c'est pour ça que tu avais tes règles. Ça c'est des trucs. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, ça a été écrit par un mec, quoi. Philippe
oui,
Labreau.
Oh, God.
Et puis du coup, c'est vrai que après j'ai commencé à chercher plus de filles qui me ressemblaient physiquement, donc des filles noires ou métisses, et dans la littérature française, j'en trouvais pas. Donc c'est là où j'ai commencé à lire un peu de littérature américaine, et aussi à commencer ma période manga. Donc Sailor Moon, j'ai toujours les 18 tomes à la maison, envers et contre tout.
À la cave.
Oui, non, dans la bibliothèque. Et voilà, ça c'est pareil, ça a façonné mon adolescence. Sailor Moon. Et si maintenant, on parlait des souvenirs feel bad, les souvenirs, les mauvais souvenirs de lecture d'enfant, les souvenirs traumatisants?
On a demandé à Pauline de nous parler d'un livre traumatisant qu'elle a lu enfant sur une danseuse. Donc c'est une série de livres qui s'appelle Nina, écrit par Anne-Marie Paul.
C'est l'histoire d'une danseuse qui a envie de réaliser ses rêves et de faire du ballet. Et donc c'était assez inspirant en fait. Le personnage était sympathique. En fait, il y avait un hors-série de guide. En fait, c'était le guide pour être une jolie fille en gros. Et il y avait par exemple, genre, je sais pas, mais presque 10 pages sur comment préparer ton teint. Tu devais passer une lotion, puis un lait, puis un truc comme ça. Et en fait, elle parlait, par exemple, à aucun moment des peaux acnéiques, où je crois que c'était juste en deux lignes, alors qu'en fait, à 12 ans, t'as plein de boutons. Enfin, je veux dire, certaines filles, il y avait des dizaines de pages sur comment se faire les yeux, comment se faire la bouche avec du crayon. Pour une gamine de 12 ans, un crayon contour, c'est un peu bizarre. Par exemple, il y avait, si tu as des lunettes, que faire ? Et donc, par exemple, comme c'était un truc pour les danseuses, donc les filles qui avaient envie de faire de la danse, comme moi, par exemple, en fait, la phrase, c'était genre, on peut pas être une Gisèle avec des binocles. Oh là là! Et donc, il fallait absolument mettre des lentilles. Moi, je me souviens qu'après avoir lu ça, je me disais, ah, mais alors, ça veut dire qu'il faut que je fasse tout ça, en fait. Et du coup, t'avais des notions, genre, en fait, fallait y penser tout le temps. Tu vois, par exemple, fallait marcher de telle manière, en serrant les fesses, ou alors fallait monter les escaliers dans telle position, faire tes ongles de telle manière. En fait, c'était rien de très violent, mais c'était quand même hyper précis pour des gamines et surtout très prescriptif.
Bon, ça a l'air horrible. Donc ne lisez pas cette série atroce et ne l'offrez pas à vos enfants.
Alors moi, mes souvenirs traumatisants. Autant on emporte le vent. J'ai adoré ce bouquin qu'on m'avait acheté un été. Et en fait, ce bouquin, ça te pousse à te mettre dans la peau de Scarlett O'Hara. Mais quand tu y réfléchis un peu... c'est le racisme, enfin tu te prends vraiment le racisme en pleine face, quoi. J'étais choquée de voir comment les personnages blancs traitaient les personnages noirs, et surtout le fait que le lecteur ou la lectrice est censé admirer les personnages blancs quand ils font ça, Dans le cas de Scarlett O'Hara, c'est avec ses maris, et notamment celui qui fait partie du Ku Klux Klan. Quoi. C'est... Et il y avait aussi la case de l'oncle Tom.
Oh no.
C'est... Enfin, en fait, sur le coup, tu te rends pas compte, mais... Donc, la... Autant On emporte le vent de Margaret Mitchell et la case de l'oncle Tom, c'est de Beecher Stowe. Et en fait, l'oncle Tom, il se laisse mourir, quoi. Il laisse le racisme lui arriver et il remet jamais en question. C'est jamais remis en question. Et en fait, ce qu'on admire, c'est le fait que, oh là là, regardez comment il accepte tout et quelle grâce il a dans le racisme. Et donc maintenant, oncle Tom, c'est une insulte.
Voilà. À raison.
Voilà, exactement. Et toi ?
Moi, je pense qu'on a tous en commun la même matrice de trauma, en fait, et qu'on a tous et toutes un rapport un peu ambivalent aux contes de fées. Donc ceux de Perrault, de Grimm, et ensuite la manière dont ils ont été adaptés par Disney. Et tout ça, ça a été assez bien expliqué par la psychanalyse et par Bettelheim. Mais c'est vrai que pour nous, il nous reste beaucoup de stéréotypes avec lesquels on a grandi. Donc la marâtre, la sorcière, la princesse. Et on se souvient donc de Blanche-Neige qui finit par faire le ménage chez les sept nains.
Chez sept mecs bizarres.
C'est ça. Vie de merde.
Ouais. Non, mais alors il y a eu un super article, je sais pas si t'as vu, sur BuzzFeed, sur la différence entre les contes de fées chez Disney et les vrais contes de fées, comment ils étaient écrits. Donc en fait, la Belle au bois dormant, dans le vrai conte, le prince charmant, elle la viole pendant son sommeil, et en fait ce qui la réveille, c'est qu'elle accouche de jumeaux. C'est comme ça qu'elle se réveille. Truc horrible.
Félicitations.
Ah non, mais enfin c'était, il y avait vraiment, je pense, comme tu dis, un truc primal dans les contes de fées, assez badant en fait. Et on peut aussi parler de Sherazade qui gérait le fait « Non, ne me viole pas, je vais te raconter une histoire.
» C'est ça, je gagne du temps.
C'était affreux. Moi, je pensais aussi au Tintin. Alors, Tintin, un grand pivot classique de tous les journalistes.
Ouais.
On a tous lu Tintin, on a tous voulu devenir journaliste pour voyager gratuitement, envoyé par notre journal. Mais Tintin au Congo et tous les Tintins qui se passent en Asie, donc le au Tibet, Tintin et le Lotus Bleu, mais c'est d'un paternalisme effarant. En Afrique, il y a vraiment les personnages noirs qui sont des énormes clichés.
En pagne, avec leurs lances et leurs grosses lèvres.
Tu comprends rien à ce qu'ils racontent. Ouais. Voilà, les grosses lèvres, vraiment la description physique raciste classique, quoi, avec des gags sur la race. C'est vraiment affreux. Et moi, j'adorais Tintin, hein, mais en fait, le racisme d'Hergé, quand tu le relis, c'est hyper malaisant, quoi. Ouais. Ça fait hyper longtemps que maintenant, quand on relit ça, on se dit, putain, mais comment ça a pu passer à l'époque ?
C'est vraiment Tintin chez les barbares, mais dans plusieurs pays, tu vois, genre en Arabie Saoudite avec Abdallah.
Le tour du monde du racisme,
ouais,
quoi.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai aussi eu la joie de relire un classique de mon enfance. C'était la série du Club des Cinq, écrit par Enid Blyton.
Mais c'était bien, ça, non ?
À l'époque, je trouvais que c'était hyper cool. Voilà, ces cousins qui allaient camper en toute liberté et résoudre des énigmes. Ça se passait dans les années 50, en plus. Et surtout, il y avait le personnage de Claude, qui était un garçon manqué, qui ne voulait pas qu'on l'appelle Claudine. Mais en fait, en relisant les livres, je me suis rendu compte que les filles ne faisaient absolument rien. Il n'y en avait que pour les mecs, qui leur disaient toujours « Oui, mais restez en arrière, c'est dangereux, restez à la maison, on va aller résoudre l'énigme. » Et donc, en fait, j'étais là « Oh non !»
En fait, c'est nul.
Au feu. Et sinon, bon, moi, je lisais aussi beaucoup des Picsou, Donald et les Castor Junior.
Oui.
Et voilà, a posteriori, je me suis rendu compte qu'ils pratiquaient une sorte de non-mixité entre couilles, comme des ancêtres des masculinistes regroupés au coin du feu.
Mais alors, juste un détail, ils ont des couilles, les poulets
Je sais pas, mais en tout cas, il n'y a jamais de femme, clairement. Donc,
ouais, voilà. C'est vrai que les Daisy, tout, elle en a rien à foutre, elle est jamais dans l'histoire.
Elle va jamais camper, quoi.
Ouais.
Et sinon, moi, je suis assez contente d'avoir été trop vieille pour lire Twilight. Et donc, j'ai échappé à cette saga du vampire Edward qui a environ 150 ans et de sa meuf Bella qui a 15 ans.
Je t'aime.
Tu es ma seule raison de rester, si je puis dire, vivant.
Et en fait, la série présente vraiment les hommes comme des personnes romantiques, alors que ce sont des prédateurs, puisque c'est un mec qui la stalk en permanence, qui se cache derrière sa fenêtre et qui la regarde dormir. C'est creepy, ce n'est pas drôle.
Ouais. Ça aurait pu se défendre, je pense, il y a 15 ans, 20 ans, où tu disais, ouais, pourquoi pas, mais c'est vrai que l'époque où c'est sorti, qu'après ça a été mis en film et tout, non,
oui.
Juste pas possible, quoi. Je te propose de faire un petit point industrie, d'expliquer ce qui se passe dans l'industrie de la littérature jeunesse aujourd'hui. Et de constater avec moi qu'il reste quand même pas mal de boulot. Quelques statistiques sur du sexisme de la littérature jeunesse selon le site Antisexisme. Donc les personnages féminins, il faut savoir qu'ils sont sous-représentés dans les rôles principaux, on s'en doutait un petit peu.
Surprise.
Selon une étude de 2002, dans 2/3 des cas, le titre du livre établit un premier contact avec un seul personnage qui se trouve être de sexe masculin, donc 2/3 des cas.
Et dans 77% des cas, donc les couvertures représentent aussi un personnage masculin. Et dans 48,9%, au moins un personnage féminin.
Donc moins de la moitié.
Ouais. Et 90% des albums pour enfants mettent en scène un personnage masculin. Donc il y a quasiment toujours des hommes, contre 73% un personnage féminin.
Ça veut dire que même quand il y a plusieurs personnages, il y a toujours un personnage masculin, quoi.
C'est un peu le référent à chaque fois.
Les personnages féminins, ils sont le plus souvent représentés à l'intérieur, donc à la maison, et ils sont moins actifs. Lorsque les femmes travaillent, ce qui arrive deux fois moins que les hommes, elles sont institutrices ou prennent soin des enfants dans la moitié des cas, et elles sont marchandes ou font du commerce pour 30% des cas, et maman quasiment tout le temps. Donc en fait, il y a une vraie dévalorisation du travail féminin, c'est-à-dire qu'elles font soit des travaux hyper stéréotypés, alors que les hommes font des travaux beaucoup plus diversifiés. Ils partagent des informations avec les enfants sans toujours être dans la fonction du papa. Donc c'est d'autres personnages qui sont variés. Quoi.
Et d'ailleurs, cette dévalorisation du travail féminin, elle touche aussi en fait, la littérature jeunesse, puisqu'on a souvent l'impression que c'est une affaire de femmes. Quand on voit qui écrit ses livres, qui les achète et qui les lit, c'est souvent des filles ou
des mamans
ou des mères, et puisque tout ce qui a trait donc à l'élevage des enfants reste aujourd'hui peu considéré. C'est vrai que c'est moins valorisé socialement d'écrire de la littérature jeunesse que des romans prisés par l'Académie française. Et c'est vrai que donc il y a encore beaucoup de livres sexistes et atroces parce que en fait ça marche très bien commercialement. Et dans Libération, l'autrice Clémentine Beauvais, qui a écrit Les Petites Reines, un roman très drôle sur un club de filles moches, elle explique qu'en fait, les héroïnes sont beaucoup plus sexuées qu'avant et que les éditeurs sont même arrivés à sexualiser Mon Petit Poney.
Quoi ?
Lol. Donc voilà, vous pouvez lire son interview dans Libé. Et on a aussi remarqué que dans les livres d'éveil pour la petite enfance, le garçon est souvent ingénieur et la fille, on l'appelle souvent mademoiselle et elle joue dans la cuisine. Donc le cheval est devenu une activité de fille. Tout ça, ça a été épinglé par un blog qui s'appelle Égalimère, qui nous parle des éditions Fleurus et de leur odieuse collection Petites filles et petits garçons.
Ah oui, c'est chacun fait son métier, chacun est payé différemment, quoi. D'accord.
Chacun dans son coin.
Il y a les éditions Fleurus, je crois que c'est aussi, qui ont sorti le déco des filles, qui avait un peu fait scandale il y a quelques années sur les réseaux sociaux, parce que ça colportait des mythes vraiment toxiques sur l'homosexualité, comme quoi c'était juste une phase, et que... Enfin, vraiment des trucs, que tu lis ça, tu te dis waouh. Et ouais, globalement, c'est quand même une catastrophe en termes d'éducation à la sexualité, quoi, ce genre de dictionnaire-là, quoi.
Et dans Slate, il y a eu récemment un article sur les œuvres qu'on ne lirait plus aujourd'hui à nos enfants. Donc, par exemple, Martine, qui pouponne et qui fait le ménage.
Martine.
Bye bye. Et donc, l'article dit « Les parents ne se souviennent pas du sexisme des œuvres incriminées parce qu'ils ne l'ont pas identifié comme tel à l'époque. La plupart n'avaient pas les bonnes grilles de lecture pour pouvoir le faire. » Donc, c'est vrai que souvent, nos souvenirs sont trompeurs. Et aujourd'hui, voilà, quand on est parents, on découvre les horreurs qu'on lisait enfant.
C'est comme quand tu penses qu'il y avait un film ou un livre que tu adorais quand tu étais gamin et que tu le regardes maintenant et tu fais « Mais en fait, c'est nul !»
Oui, c'est ça. Genre, tu ne donnes plus de banania à tes enfants.
T'es là, c'est nul.
Non, merci.
Alors, comme d'habitude, il faut savoir que tous les liens dont on parle, donc les articles, les études, sont disponibles dans les notes du podcast et sur le site de Nouvelles Écoutes.
Le moment pop culture.
Alléluia, tout n'est pas perdu. Heureusement, en France, il y a aussi tout un tas de petites maisons d'édition qui ont une ligne éditoriale dégenrée, revendiquée et assumée. Donc, par exemple, Talent Haut, Sarbacane, Rue du Monde ou encore Planète Rêvée.
Bravo !
Oui ! Et en plus, il faut aussi donner un peu de crédit aux jeunes lecteurs et jeunes lectrices, puisque voilà, la relève est arrivée. Et il y a de plus en plus de clubs de lecture où les lecteurs peuvent se retrouver dès leur plus jeune âge. Et nous, on a été les écouter dans une librairie qui s'appelle Les Enfants sur le Toit, qui est rue Ramet, dans le 18e arrondissement. On a écouté Alice, Félicie, Leïla et les autres membres du club de lecture qui ont entre 11 et 14 ans et qui adorent un roman que je ne connaissais pas qui s'appelle Les Fiancés de l'Hiver de Christelle Dabos.
Ah, et oui, moi j'ai lu Les Fiancés de l'Hiver, mais bon.
Ah, c'est trop. Mais non, mais ça, c'est.
J'ai lu le 1 et le 2. Le 1 et le 2, et je veux lire le 3, c'est trop bien.
Mais oui, ouais. Bien sûr que c'est trop bien.
Ah, ouais, et moi, c'est, je connais pas.
Alors, en gros, c'est dans un univers composé de plusieurs arches, donc en gros, c'est la Terre qui a explosé.
C'est, en fait, c'est entre science-fiction.
Non, parce que c'est
en
pas bizarre. Bizarre. C'est
en fait, la Terre, elle a explosé, mais ils sont revenus comme au Moyen-Âge.
Non, c'est ouais, dans c'est un ça, univers bien, c'est dans un univers complètement différent.
Et en gros, c'est une fille qui. Elle est jeune, elle a. Ouais, bon, voilà. Et elle doit, en gros, on lui dit qu'elle doit se marier avec un homme qui est.
Qui vient d'une autre
arche. D'une autre arche. En fait, normalement, elle devait se marier c'est avec un de ses cousins, mais finalement, elle voulait pas. Du coup, les doyennes qui sont les.
Ouais, fais pas trop d'été.
Voilà, qui sont les chefs de tout le monde. Enfin, voilà. Et ben elle décide qu'elle doit se marier avec lui. Et
elle a toute une spéciale. Histoire.
Elle a deux pouvoirs. Elle peut aussi passer les miroirs.
Et atterrir dans une pièce.
Et toucher
c'est pour ça que ça s'appelle le passe-miroir du truc.
C'est ouais, tout souvenu, là. Hein.
Moi, j'ai une petite anecdote sur ce club de lecture. Une fois, j'y ai été. Et les enfants, je leur dis, alors, c'est quoi que vous lisez en ce moment? Et il y en a un qui m'a dit, non, mais madame, si vous n'avez pas lu Wonder, vous ne connaissez pas la base. Et donc, Wonder, ça a été adapté en film avec Julia Roberts et Owen Wilson.
Ouais, ça sort bientôt.
C'est sorti en décembre. Sinon, on est quand même assez jalouse du phénomène de la littérature jeunesse 2.0, la littérature young adulte, jeune adulte. C'est un véritable phénomène d'aujourd'hui. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même un rayon dédié à la FNAC. Et en fait, c'est la littérature qui s'adresse aux jeunes. Donc, ça recouvre vraiment tout un... C'est même un genre complet de littérature. Et les adultes aussi lisent de la... Je ne sais pas comment on peut dire.
YA.
Dans les classiques de la littérature jeunesse young adulte, on a John Green avec Nos étoiles contraires.
Ouais, aussi adapté au cinéma.
Aussi adapté au cinéma. En fait, c'est un genre qui se prête vraiment beaucoup à l'adaptation au cinéma, puisqu'il y a eu aussi Hunger Games de Suzanne Collins, Divergente de Veronica Roth. Et je pense qu'on peut aussi mettre Twilight dans la littérature young adulte. Ouais. Et c'est une littérature qui est justement, de manière assez intéressante, très tournée vers les femmes. C'est beaucoup de femmes qui écrivent et c'est beaucoup d'héroïnes fortes. Qui fait que ça devient un fonds de commerce que les adolescentes adorent, quoi.
Mmh. Ouais, je peux confirmer, puisqu'effectivement, moi-même, je lis pas mal de manuscrits pour une maison d'édition jeunesse, et c'est devenu une recette très rentable et presque un passage obligé. En fait, moi, j'en lis tellement que je finis par en avoir un peu marre, mais en même temps, voilà, tant mieux si ça améliore les représentations, c'est quand même...
Plus de meufs.
Ouais, c'est quand même mieux qu'avant. On a trouvé pas mal d'exemples en fait de cette littérature jeunesse de plus en plus inclusive, des exemples qu'on a pu lire cette année. Par exemple, Histoire du soir pour filles rebelles, écrit par Elena Favilli et Francesca Cavallo. À l'origine, c'était un projet Kickstarter qui a fini par leur faire gagner en fait plusieurs milliers de dollars. Et c'est une alternative aux contes de fées traditionnels à travers des portraits de femmes inspirantes, par exemple Rosa Parks, Marie Curie, Serena Williams et même Margaret Thatcher. Oui, c'est mal.
Bon, pour mon anniversaire, tu sais ce que tu veux.
Tu veux qu'on te lise des contes de fées le soir ?
Oui, je suis là.
Et pour les tout petits, moi je recommande un classique qui s'appelle Quatre poules et un coq, écrit par Lena et Olof Landström, des Scandinaves éclairés. Et ça parle en fait d'un groupe de poules dans la basse-cour qui veulent s'émanciper du coq tyran et qui apprennent le Krav Maga pour se défendre. Donc c'est super drôle. Et au rayon littérature LGBT, moi je recommande Georges, écrit par Alex Ginot, publié à l'École des loisirs. C'est un roman sur une enfant trans, donc une petite fille née dans un corps de garçon, et la manière dont en fait elle va naviguer avec ces normes-là à l'école et se révéler dans une pièce de théâtre. Voilà.
Sinon, au rayon littérature rouge, comme j'aime à l'appeler, donc tous ces livres sur les règles qui sont sortis cette année et qui ont, je pense, eu pas mal de succès, on peut citer Les règles, quelle aventure, qui est un essai de Élise Thiébaut et Myrion Malle, qui était aussi autrice de Commando Culotte, la bande dessinée. Ça explique aux adolescents les tabous et les croyances absurdes sur les menstrues. Et je trouve ça vraiment cool, quoi, qu'on démystifie ça. Parce que moi, à l'époque, je me rappelle au collège, j'avais fait tomber mon sac à dos et dedans, j'avais une serviette. Et tous les garçons, ils s'étaient moqués, quoi. Genre, comme si c'était honteux.
Il fallait leur jeter au visage.
Genre, ça n'existe pas, tu vois. Ouais.
Bah oui, c'était la désinformation, quoi, effectivement.
Ouais. Donc là, je trouve ça vraiment cool qu'il y ait une littérature qui s'adresse aux jeunes et qui démystifie tout ça, quoi.
Moi, j'ai un petit message de service au monde de l'édition. J'aimerais bien un jour voir traduit My Mad Fat Diary, qui est écrit par Ray Earl. Either I'm gonna be too big for the world, or the world's gonna be too big for me. Donc, c'est un journal intime qui parle de la grossophobie et de la maladie mentale. Et ça a aussi été adapté en série. Et c'est vraiment
c'est trop bien, merveilleux. La série. Ouais, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps.
On en a besoin en français. Voilà.
Sinon, il y a aussi un livre qui fait polémique en ce moment, qui va aussi être adapté en film. The Hate You Give d'Angie Thomas. C'est un livre qui parle d'une héroïne dont le meilleur ami se fait tuer par la police.
Ouais.
Et donc, le personnage est noir et l'ami est noir. Et donc, au Texas, ce livre est interdit. Une école de la ville de Katy a interdit le bouquin parce que c'est soi-disant trop choquant et ça parle de drogue. Comme s'il n'y avait pas d'autres bouquins qui parlaient de drogue. Hein.
Oui, du coup, ça a été jugé pas adapté aux enfants, surtout que le livre s'inspire un peu du mouvement Black Lives Matter. Et voilà, il y a des coins où c'est très mal vu.
Alors, pour trouver des lectures à offrir à vos enfants, des lectures saines, vous pouvez vous référer au répertoire des œuvres LGBT,
qui s'appelle la Rainbowtech.
Rainbowtech. À l'association Diveca pour la diversité dans la littérature jeunesse. Et il y a aussi un Fidalbum. C'est un site, donc un site de ressources pour une littérature jeunesse antisexiste. Il y a aussi le site de Oser le féminisme qui a 10 albums de jeunesse à offrir. Et il y a eu un article qui est paru sur BuzzFeed qu'on va vous recommander aussi avec plein d'idées de livres à offrir.
Alors, on imagine bien que vous avez envie de commander tous ces livres, mais ne vous ruez pas tout de suite sur Amazon, car c'est le mal, ils exploitent les gens. Allez plutôt chez votre libraire de quartier, qui saura sans doute vous conseiller, et qui peut en plus commander les livres très très rapidement, ou sinon rendez-vous sur leslibraires.com, qui s'associe avec beaucoup de libraires indépendants, voilà, pour vous envoyer tout ça par la poste.
Les recommandations
culturelles.
De quoi de neuf ? Alors, on a fait déjà beaucoup de recommandations, mais on va en faire encore deux. Moi, j'aimerais vous parler du livre « Comme un million de papillons noirs » de Laurane Safou.
Ouais.
Qui est un livre qui a fait une levée de fonds crowdfunding.
Ouais.
Donc Laurane Safou, c'est une autrice et qui est aussi beaucoup sur Twitter, qui s'appelle Mrs. Roots sur Twitter. Et vraiment, vraiment, hein, comme un million de papillons noirs, c'est le livre que j'aurais aimé lire en fait quand j'étais petite. J'en parlais tout à l'heure du fait de lire plein d'histoires avec des personnages qui te ressemblent pas et qui vivent des choses que toi tu vis pas au quotidien. Donc ça, c'est l'histoire d'Adé. Adé, qui est une petite fille qui n'aime pas ses cheveux et que c'est parce que ses camarades d'école les comparent à des carottes tordues, surtout quand il pleut. Et heureusement, la maman d'Adé lui explique que ses cheveux sont particuliers, mais qu'ils sont magiques. Ils ont une sorte de magie quand on les aime et quand on s'en occupe. Donc elle lui apprend petit à petit en utilisant de l'huile de noix de coco, avec une brosse et beaucoup d'amour, en fait, elle lui apprend à s'occuper de ses cheveux. Et donc, tout au long de l'histoire, Adé cherche à transformer ses cheveux en papillons. Donc, c'est illustré par Barbara Brun. Et en fait, le message est vraiment... quand j'ai lu le texte, je ne m'attendais pas à ça. C'est très, très poétique. Enfin, je me dis que pour les tout-petits qui ont 3-4 ans, c'est peut-être même un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de métaphores.
C'est body positive, en plus.
Oui, oui. J'ai trouvé ça vraiment beau, surtout en tant que petite fille, moi, ai grandi vraiment avec des modèles blancs. Ma maman était blanche, je l'ai déjà dit. Et là, la maman et les tantes d'Adé sont noires. Enfin, il y a vraiment tout un truc autour de la féminité noire que j'ai trouvé très émouvant et très beau. et je pense que c'est un livre à offrir à tout le monde.
Moi, je voudrais recommander un roman jeunesse qui est accessible aussi aux adultes, qui s'appelle Les Porteurs, qui a été écrit par Kat Cueva. Et donc, le tome 1 et 2 viennent de sortir aux éditions Thierry Magnier. Ça se passe dans une dystopie post-apocalyptique où, dans le monde, tout le monde naît hermaphrodite et les ados choisissent leur genre à 16 ans lors d'une cérémonie qui s'appelle la CESA. Et donc, il y a tout un vocabulaire neutre assez intéressant. Donc, pour les frères et sœurs, on parle de frateurs. Et voilà, donc c'est des humains du futur qui passent leur temps, en fait, à se moquer de la société ultra-genrée. Enfin, la nôtre, en fait.
Genre, c'était complètement débile avant et tout.
Et en fait, le personnage principal du roman, Matt, lui, n'a pas encore fait sa CESA. Et en fait, il a une anomalie génétique et il ne pourra pas accomplir sa puberté. Donc, on ne sait pas s'il va être homme ou femme. Voilà, on l'appelle... c'est un porteur. Et en fait, il va découvrir tout un complot d'État autour de ce changement de genre. Et voilà, c'est assez croustillant, je vous raconte pas la suite, mais voilà, ça vaut la peine.
Allô ?
Allô ?
T'as une question ?
Quoi de meuf vous écoute ?
Alors, cette semaine, pour la question des auditrices, on a choisi une question de Clabénis qui nous a laissé un commentaire dans Apple Podcast. Alors, il y avait plusieurs questions, mais j'en ai sélectionné une partie. Donc, Clabénis nous dit: la série Girls de Lena Dunham sur HBO a énormément fait parler d'elle pour son féminisme, mais je la trouve extrêmement machiste pour ma part. Sous ses airs de femme parlant de femme aux femmes, les quatre héroïnes ne parlent que d'elles vis-à-vis des hommes et se définissent par eux. Ça me rappelle Sex and the City, la sincérité dans la démarche en moins, au moins le titre était parlant, et la transgression en moins, puisque la série date un peu. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu s'attendre à plus transgressif.
I think that I may be the voice of my generation, or at least a voice.
T'en penses quoi, Clémentine ?
Alors, je ne suis pas tellement d'accord. C'est vrai que on a critiqué Sex and the City à l'époque, notamment pour tous ces travers consuméristes et le fait que la série était très blanche, ce qui est vrai. Mais à mon avis, contrairement à ce que dit cette auditrice, pour moi, c'était pas tellement une série sur le sexe, mais plus sur l'amitié féminine. Un peu comme Girls, du coup. Et à mon avis, Girls raconte plutôt en fait comment on se définit, comment on grandit et comment on navigue toutes les nouvelles normes qu'on a aujourd'hui dans une grande ville, évidemment en étant une fille blanche vingtenaire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de diversité, ça c'est vrai. Et moi, je trouve que la série en fait est assez transgressive et j'ai l'impression qu'on prend beaucoup pour acquis toutes ces avancées, puisque maintenant ça peut nous paraître évident de voir une fille un peu grosse, toute nue, mais c'est vrai que quand on a découvert la série, ça a été choquant pour beaucoup de gens. Et je pense que la série a aidé à normaliser en fait beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais, je suis d'accord. Surtout sur la nudité, parce que j'en ai encore parlé il y a pas longtemps avec des potes qui me disaient: ah, mais quand même, c'était gratuit au bout d'un moment. Mais tu dis, bah oui, mais si la fille avait été super fine et super dans les canons en vigueur, la gratuité t'aurait pas choqué.
Ouais, c'est ça, t'aurais été bien content, ça t'aurait pas dérangé.
Et il me fait: ah oui, c'est vrai. Non, mais alors moi personnellement, j'avais un peu de mal avec, même beaucoup de mal avec cette série et avec Lena Dunham en général. Surtout donc autour du traitement de la race, avec le Brooklyn et New York complètement blanc. Enfin, moi, ça me choquait au plus haut point. Et alors, il y a pour moi la question de la complaisance dans les défauts des personnages. Mais moi, justement, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce que jusqu'ici, t'avais souvent des héroïnes qui était égoïste, mais c'était pas souligné par la série. Par exemple, Carrie dans Sex and the City, ouais, moi je la trouve très très égoïste. Hein. Ouais. Elle pense beaucoup à elle, elle fait du mal à beaucoup de gens et en fait ça la choque pas. Sauf que dans Girls, la série met ça en avant et le souligne. Et je trouve que la figure du personnage égoïste féminin, ça mérite qu'on s'y intéresse.
Oui, puis un personnage qui n'est pas toujours aimable. Voilà. Et puis c'est pas grave, quoi.
Bah ouais, c'est pas grave. C'est voilà, quand il y a des personnages masculins qui sont pas sympas,
ou qui sont égoïstes, personne leur dit qu'ils sont pas Mère Teresa, qu'il faudrait qu'ils soient plus altruistes. C'est pas du tout des choses qu'on reproche.
Exactement. Mais par rapport à Sex and the City, Girls, ça s'est tout de suite positionné en héritière. Hein. Dans le premier épisode, il me semble que Shoshana, elle a un poster de Girls.
Oui,
de
et puis Sex elle dit « Ah, toi, t'es plutôt Carrie ou machin. » Et puis, mais en fait, il y a tout un discours là-dessus, puisque Jessa dit « Bah, je sais même pas ce que c'est cette série, en fait. » Donc, c'est vrai qu'il y a tout un double discours ouais. sur le fait d'accepter son héritage et de le dépasser, en fait.
Ouais. Ouais, ouais, complètement. Et je tiens juste à souligner pour terminer que je trouve ça aussi très, très, très intéressant que la plus grosse star de la série, post-Girls, ce soit Adam Driver, donc l'homme, un des hommes de la série, qui maintenant tourne dans plein de films indépendants et aussi dans Star Wars, qui est quand même le plus grand film au monde.
Ouais, c'est ça.
Donc là aussi, tu vois qui est sorti de la série, qui a eu du succès.
Bah oui, même les séries féministes finissent toujours par bénéficier aux hommes. Voilà. CQFD.
La boucle est bouclée.
C'est ça.
Bon, voilà, c'est tout pour cette fois-ci. À dans 3 semaines, Clémentine.
À dans 3 semaines et n'oubliez pas de lire Sous la couette.
Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche dans la newsletter Quad Meuf. Abonnez-vous sur quadmeuf.net si ce n'est pas déjà fait.
Et vous pouvez aussi aller sur Apple Podcasts et nous laisser une note, 5 étoiles de préférence, ce serait super. On est aussi sur Twitter et Instagram, sur @quadmeuf. Et on se retrouve au prochain épisode.
Bye girl.
Girl, bye. Quad Meuf est une émission de Clémentine Gallo et Mélanie Wanga, produite par Nouvelles Écoutes, avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Maxime Olivier, au montage et au mixage Laurie Galigani.